Chapitre 15. Irritation de Monsieur de Villèle. Charles X veut passer la revue de la garde nationale au Champ de Mars. Je lui écris ma lettre. L'opposition avait enfin donné de l'irascibilité au tempérament froid de Monsieur de Villèle et rendu despotique l'esprit malfaisant de Monsieur de Corbière. Celui-ci avait destitué le duc de Liancourt de 17 places gratuites. Le duc de Liancourt n'était pas un saint, mais on trouvait en lui un homme bienfaisant à qui la philanthropie avait décerné le titre de vénérable. Par le bénéfice du temps, de vieux révolutionnaires ne marchent plus qu'avec une épithète comme les dieux d'Homère. C'est toujours le respectable monsieur tel, c'est toujours l'inflexible citoyen tel, qui, comme Achille, n'a jamais mangé de bouillie, Achillos. À l'occasion du scandale arrivé au convoi de monsieur de Liancourt, monsieur de Sémonville nous dit, à la chambre des pairs, « Soyez tranquilles, messieurs, cela n'arrivera plus. Je vous conduirai moi-même au cimetière. » Le roi, au mois d'avril 1827, voulut passer la revue de la garde nationale au Champ de Mars. Deux jours avant cette fatale revue, poussé par mon zèle, et ne demandant qu'à mettre bas les armes, j'adressai à Charles X une lettre qui lui fut remise par M. de Blacas et dont il m'accusa réception par ce billet. « Je n'ai pas perdu un instant, monsieur le vicomte, pour remettre au roi la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser pour sa majesté. Si elle daigne me charger d'une réponse, je ne mettrai pas moins d'empressement à vous la faire parvenir. Recevez, monsieur le vicomte, mes compliments les plus sincères. Blacas d'Olps. Ce 27 avril 1827, à 1h après-midi. Ô roi, sire, permettez à un sujet fidèle, que les moments d'agitation retrouveront toujours au pied du trône, de confier à votre majesté quelques réflexions qu'il croit utiles à la gloire de la couronne comme au bonheur et à la sûreté du roi. Sire, il n'est que trop vrai, il y a péril dans l'État. Mais il est également certain que ce péril n'est rien si on ne contrarie pas les principes mêmes du gouvernement. Un grand secret, sire, a été révélé. Vos ministres ont eu le malheur d'apprendre à la France que ce peuple que l'on disait ne plus exister était tout vivant encore. Paris, pendant 2 fois 24 heures, a échappé à l'autorité. Les mêmes scènes se répètent dans toute la France. Les factions n'oublieront pas cet essai. Mais les rassemblements populaires, si dangereux dans les monarchies absolues, parce qu'ils sont en présence du souverain même, sont peu de choses dans la monarchie représentative, parce qu'ils ne sont en contact qu'avec des ministres ou des lois. Entre le monarque et les sujets se trouve une barrière qui arrête tout, les deux chambres et les institutions publiques. En dehors de ces mouvements, le roi voit toujours son autorité et sa personne sacrée à l'abri. Mais, sire, il y a une condition indispensable à la sûreté générale, c'est d'agir dans l'esprit des institutions. Une résistance de votre conseil à cet esprit rendrait les mouvements populaires aussi dangereux dans la monarchie représentative qu'ils le sont dans la monarchie absolue. De la théorie, je passe à l'application. Votre Majesté va paraître à la revue. Elle y sera accueillie comme elle le doit. Mais il est possible qu'elle entende au milieu des cris de « Vive le roi !» d'autres cris qui lui feront connaître l'opinion publique sur ses ministres. De plus, sire, il est faux qu'il y ait à présent, comme on le dit, une faction républicaine. Mais il est vrai qu'il y a des partisans d'une monarchie illégitime. Or, ceux-ci sont trop habiles pour ne pas profiter de l'occasion et de ne pas mêler leur voix le 29 à celle de la France pour donner le change. Que fera le roi? Cédera-t-il ses ministres aux acclamations populaires? Ce serait tuer le pouvoir. Le roi gardera-t-il ses ministres? ces ministres feront retomber sur la tête de leur auguste maître toute l'impopularité qui les poursuit. Je sais bien que le roi aurait le courage de se charger d'une douleur personnelle pour éviter un mal à la monarchie. Mais on peut, par le moyen le plus simple, éviter ces calamités. Permettez-moi, sire, de vous le dire, on le peut en se renfermant dans l'esprit de nos institutions. Les ministres ont perdu la majorité dans la Chambre des pairs et dans la nation. La conséquence naturelle de cette position critique est leur retraite. Comment, avec le sentiment de leur devoir, pourraient-ils s'obstiner, en restant au pouvoir, à compromettre la couronne ? En mettant leur démission au pied de votre majesté, ils calmeront tout, ils finiront tout. Ce n'est plus le roi qui cède, ce sont les ministres qui se retirent, d'après tous les usages et tous les principes du gouvernement représentatif. Le roi pourra reprendre ensuite, parmi eux, ceux qu'il jugera à propos de conserver. Il y en a deux que l'opinion honore, Monsieur le duc de Doudoville et Monsieur le comte de Chabrol. La revue perdrait ainsi ses inconvénients et ne serait plus qu'un triomphe sans mélange. La session s'achèvera en paix au milieu des bénédictions répandues sur la tête de mon roi. Sire, pour avoir osé vous écrire cette lettre, il faut que je sois bien persuadé de la nécessité de prendre une résolution. Il faut qu'un devoir bien impérieux m'ait poussé. Les ministres sont mes ennemis. Je suis le leur, je leur pardonne comme chrétien, mais je ne leur pardonnerai jamais comme homme. Dans cette position, je n'aurai jamais parlé au roi de leur retraite s'il n'y allait du salut de la monarchie. Je suis, etc., Chateaubriand. Chapitre 16. La revue. Licenciement de la garde nationale. La chambre élective est dissoute. La nouvelle chambre. Refus de concours. Chute du ministère Villèle. Je contribue à former le nouveau ministère et j'accepte l'ambassade de Rome. Madame la Dauphine et Madame la Duchesse de Berry furent insultées en se rendant à la revue. Le roi fut généralement bien accueilli, mais une ou deux compagnies de la 6e Légion crièrent « À bas les ministres, à bas les jésuites !» Charles X, offensé, répliqua « Je suis venu ici pour recevoir des hommages. » Non des leçons. Il avait souvent à la bouche de nobles paroles que ne soutenait pas toujours la vigueur de l'action. Son esprit était hardi, son caractère timide. Charles X, en rentrant au château, dit au maréchal Oudinot : L'effet total a été satisfaisant. S'il y a quelques brouillons, la masse de la garde nationale est bonne. Témoignez-lui ma satisfaction. Monsieur de Villèle arriva. Des légions, à leur retour, avaient passé devant l'hôtel des finances et crié « À bas Villèle !» Le ministre, irrité par toutes les attaques précédentes, n'était plus à l'abri des mouvements d'une froide colère. Il proposa au conseil de licencier la garde nationale. Il fut appuyé par messieurs de Corbière, de Perronnet, de Damas et de Clermont-Tonnerre. Combattu par M. de Chabrol, l'évêque d'Hermopolis et le duc de Doudoville. Une ordonnance du roi prononça le licenciement, coup le plus funeste porté à la monarchie avant le dernier coup des journées de juillet. Si à ce moment la garde nationale ne se fût pas trouvée dissoute, les barricades n'auraient pas eu lieu. M. le duc de Doudoville donna sa démission. Il écrivit au roi une lettre motivée dans laquelle il annonçait l'avenir que tout le monde, au reste, prévoyait. Le gouvernement commençait à craindre. Les journaux redoublaient d'audace et on leur opposait, par habitude, un projet de censure. On parlait en même temps d'un ministère Labourdonnais où aurait figuré M. de Polignac. J'avais eu le malheur de faire nommer M. de Polignac ambassadeur à Londres malgré ce qu'avait pu me dire M. de Villèle. En cette occasion, il vit mieux et plus loin que moi. En entrant au ministère, je m'étais empressé de faire quelque chose d'agréable à monsieur. Le président du conseil était parvenu à réconcilier les deux frères, dans la prévision d'un changement prochain de règne. Cela lui réussit. Moi, en m'avisant une fois dans ma vie de vouloir être fin, je fus bête. Si M. de Polignac n'eût pas été ambassadeur, il ne serait pas devenu ministre des Affaires étrangères. M. de Villèle, obsédé d'un côté par l'opposition royaliste libérale, importuné de l'autre par les exigences des évêques, trompé par les préfets consultés, qui étaient eux-mêmes trompés, résolut de dissoudre la Chambre élective, malgré les 300 qui lui restaient fidèles. Le rétablissement de la censure précéda la dissolution. J'attaquai plus vivement que jamais. Les oppositions s'unirent. Les élections des petits collèges furent toutes contre le ministère. À Paris, la gauche triompha. 7 collèges nommèrent M. Royer-Collard, et les 2 collèges, où se présenta M. de Peyronnet, ministre, le rejetèrent. Paris illumina de nouveau. Il y eut des scènes sanglantes. Des barricades se formèrent, et les troupes envoyées pour rétablir l'ordre furent obligées de faire feu. Ainsi se préparaient les dernières et fatales journées. Sur ces entrefaites, on reçut la nouvelle du combat de Navarin, succès dont je pouvais revendiquer ma part. Les grands malheurs de la Restauration ont été annoncés par des victoires. Elles avaient de la peine à se détacher des héritiers de Louis le Grand. La Chambre des Pairs jouissait de la faveur publique par sa résistance aux lois oppressives. Mais elle ne savait pas se défendre elle-même. Elle se laissa gorger de fournées contre lesquelles je fus presque le seul à réclamer. Je lui prédis que ses nominations vicieraient son principe et lui feraient perdre à la longue toute force dans l'opinion. Me suis-je trompé? Ces fournées, dont le but de rompre une majorité, ont non seulement détruit l'aristocratie en France, mais elles sont devenues le moyen dont on se servira contre l'aristocratie anglaise. Celle-ci sera étouffée sous une nombreuse fabrication de toges et finira par perdre son hérédité, comme la pairie dénaturée l'a perdue en France. La nouvelle chambre arrivée prononça son fameux refus de concours. M. de Villèle, réduit à l'extrémité, songea à renvoyer une partie de ses collègues et négocia avec messieurs Laffitte et Casimir Perrier. Les 2 chefs de l'opposition de gauche prêtèrent l'oreille. La mèche fut éventée. M. Laffitte n'osa franchir le pas. L'heure du président sonna et le portefeuille tomba de ses mains. J'avais rugi en me retirant des affaires. M. de Villèle se coucha. Il eut la velléité de rester à la Chambre des députés, parti qu'il aurait dû prendre, mais il n'avait ni une connaissance assez profonde du gouvernement représentatif, ni une autorité assez grande sur l'opinion extérieure pour jouer un pareil rôle. Les nouveaux ministres exigèrent son bannissement à la Chambre des Pairs, et il l'accepta. Consulté sur quelques remplaçants pour le cabinet, j'invitai à prendre M. Casimir Perrier et le général Sébastiani. Mes paroles furent perdues. M. de Chabrol, chargé de composer le nouveau ministère, me mit en tête de sa liste. J'en fus rayé avec indignation par Charles X. M. Portalis, le plus misérable caractère qui fut oncle, fédéré pendant les 100 jours, rampant au pied de la légitimité dont il parla comme aurait rougi de parler le plus ardent royaliste, aujourd'hui prodiguant sa banale adulation à Philippe, reçut les sceaux. À la guerre, M. de Caux remplaça M. de Clermont-Tonnerre, M. le comte Roy, l'habile artisan de son immense fortune, fut chargé des finances. Le comte de la Ferronnay, mon ami, eut le portefeuille des affaires étrangères. M. de Martignac entra au ministère de l'Intérieur, le roi ne tarda pas à le détester. Charles X suivait plutôt ses goûts que ses principes. S'il repoussait M. de Martignac à cause de son penchant au plaisir, il aimait M. de Corbière et de Villèle, qui n'allaient pas à la messe. M. de Chabrol et l'évêque d'Hermopolis restèrent provisoirement au ministère. L'évêque, avant de se retirer, me vint voir. Il me demanda si je le voulais remplacer à l'instruction publique. « Prenez M. Royer-Collard, lui dis-je. Je n'ai nulle envie d'être ministre. Mais si le roi me voulait absolument rappeler au conseil, je n'y rentrerai que par le ministère des Affaires étrangères, en réparation de l'affront que j'y ai reçu. Or, je ne puis avoir aucune prétention sur ce portefeuille, si bien placé entre les mains de mon noble ami. » Après la mort de M. Mathieu de Montmorency, M. de Rivière était devenu gouverneur du duc de Bordeaux. Il travaillait dès lors au renversement de M. de Villèle, car la partie dévote de la cour s'était ameutée contre le ministre des Finances. M. de Rivière me donna rendez-vous rue de Taranne, chez M. de Marcellus, pour me faire inutilement la même proposition que me fit plus tard l'abbé Frayssinous. M. de Rivière mourut, et M. le baron de Damas lui succéda auprès de M. le duc de Bordeaux. Il s'agissait donc toujours de la succession de M. de Chabrol et de M. l'évêque d'Hermopolis. L'abbé Feutrier, évêque de Beauvais, fut installé au ministère des cultes que l'on détacha de l'instruction publique, laquelle tomba à M. de Vatiménil. Restait le ministère de la Marine. On me l'offrit, je ne l'acceptai point. M. le comte Roy me pria de lui indiquer quelqu'un qui me fût agréable et que je choisirais dans la couleur de mon opinion. Je désignai M. Hyde de Neuville. Il fallait en outre trouver le précepteur de M. le duc de Bordeaux. M. le comte Roy m'en parla. M. de Chevreuse se présenta tout d'abord à ma pensée. Le ministre des Finances courut chez Charles X. Le roi lui dit « Soit, Hyde à la marine, mais pourquoi Chateaubriand ne prend-il lui-même ce ministère ?» Quant à M. de Chevreuse, le choix serait excellent. Je suis fâché de n'y avoir pas pensé. 2 heures plus tôt, la chose était faite. Dites-le bien à Chateaubriand, mais M. Tarin est nommé. M. Roy me vint apprendre le succès de sa négociation. Il ajouta « Le roi désire que vous acceptiez une ambassade. Si vous le voulez, vous irez à Rome. » Ce mot de « Rome » eut sur moi un effet magique. J'éprouvais la tentation à laquelle les anachorètes étaient exposés dans le désert. Charles X, en prenant à la marine l'ami que je lui avais désigné, faisait les premières avances. Je ne pouvais plus me refuser à ce qu'il attendait de moi. Je consentis donc encore à m'éloigner. Du moins, cette fois, l'exil me plaisait. Pontificum veneranda sedes, sacrum solium. Je me sentis saisi du désir de fixer mes jours, de l'envie de disparaître, même par calcul de renommée, dans la ville des funérailles, au moment de mon triomphe politique. Je n'aurais plus élevé la voix, sinon comme l'oiseau fatidique de Pline, pour dire chaque matin Ave au Capitole et à l'aurore. Il se peut qu'il fût utile à mon pays de se trouver débarrassé de moi. Par le poids dont je me sens, je devine le fardeau que je dois être pour les autres. Les esprits de quelque puissance qui se rongent et se retournent sur eux-mêmes sont fatigants. Dante met aux enfers des âmes torturées sur une couche de feu. Monsieur le duc de Laval, que j'allais remplacer à Rome, fut nommé à l'ambassade de Vienne. Chapitre 17. Examen d'un reproche. Avant de changer de sujet, je demande la permission de revenir sur mes pas et de me soulager d'un fardeau. Je ne suis pas entré sans souffrir, dans le détail de mon long différend avec M. de Villèle. On m'a accusé d'avoir contribué à la chute de la monarchie légitime. Il me convient d'examiner ce reproche. Les événements arrivés sous le ministère dont j'ai fait partie ont une importance qui le lie à la fortune commune de la France. Il n'y a pas un Français dont le sort n'ait été atteint du bien que je puis avoir fait, du mal que j'ai subi. Par des affinités bizarres et inexplicables, par des rapports secrets qui entrelacent quelquefois de hautes destinées à des destinées vulgaires, les Bourbons ont prospéré tant qu'ils ont daigné m'écouter, quoique je sois loin de croire, avec le poète, que mon éloquence ait fait l'aumône à la royauté. Sitôt qu'on a cru devoir briser le roseau qui croissait au pied du trône, la couronne a penché, et bientôt elle est tombée. Souvent, en arrachant un brin d'herbe, on fait crouler une grande ruine. Ces faits incontestables, on les expliquera comme on voudra. S'ils donnent à ma carrière politique une valeur relative qu'elle n'a pas d'elle-même, je n'en tirerai point vanité. Je ne ressens point une mauvaise joie du hasard qui mêle mon nom d'un jour aux événements des siècles. Quelle qu'ait été la variété des accidents de ma course aventureuse, ou que les noms et les faits m'aient promené, le dernier horizon du tableau est toujours menaçant et triste. Iuga coepta moveri, siluarum visaeque canes ululare per umbram. Mais si la scène a changé d'une manière déplorable, je ne dois, dit-on, accuser que moi-même. Pour venger ce qui m'a semblé une injure, j'ai tout divisé, et cette division a produit en dernier résultat le renversement du trône. Voyons. M. de Villèle a déclaré qu'on ne pouvait gouverner ni avec moi, ni sans moi. Avec moi, c'était une erreur. Sans moi, à l'heure où M. de Villèle disait cela, il disait vrai, car les opinions les plus diverses me composaient une majorité. M. le président du Conseil ne m'a jamais connu. Je lui étais sincèrement attaché. Je l'avais fait entrer dans son premier ministère, ainsi que le prouve le billet de remerciement de M. le duc de Richelieu et les autres billets que j'ai cités. J'avais donné ma démission de plénipotentiaire à Berlin, lorsque M. de Villèle s'était retiré. On lui persuada qu'à sa seconde rentrée dans les affaires, je désirais sa place. Je n'avais point ce désir. Je ne suis point de la race intrépide, sourde à la voix du dévouement et de la raison. La vérité est que je n'ai aucune ambition. C'est précisément la passion qui me manque, et parce que j'en ai une autre qui me domine. Lorsque je priais M. de Villèle de porter au roi quelques dépêches importantes pour m'éviter la peine d'aller au château, afin de me laisser le loisir de visiter une chapelle gothique dans la rue Saint-Julien-le-Pauvre, il aurait été bien rassuré contre mon ambition, s'il eût mieux jugé de ma candeur puérile ou de la hauteur de mes dédains. Rien ne m'agréait dans la vie positive, hormis peut-être le ministère des Affaires étrangères. Je n'étais pas insensible à l'idée que la patrie me devrait, dans l'intérieur, la liberté, à l'extérieur, l'indépendance. Loin de chercher à renverser M. de Villèle, j'avais dit au roi, « Sire, M. de Villèle est un président plein de lumière. Votre Majesté doit éternellement le garder à la tête de ses conseils. » M. de Villèle ne le remarqua pas. Mon esprit pouvait tendre à la domination, mais il était soumis à mon caractère. Je trouvais plaisir dans mon obéissance parce qu'elle me débarrassait de ma volonté. Mon défaut capital est l'ennui, le dégoût de tout, le doute perpétuel. S'il se fût rencontré un prince qui, me comprenant, m'eût retenu de force au travail, il avait peut-être quelque parti à tirer de moi. Mais le ciel fait rarement naître ensemble l'homme qui veut et l'homme qui peut. En fin de compte, est-il aujourd'hui une chose pour laquelle on voulut se donner la peine de sortir de son lit? On s'endort au bruit des royaumes tombés pendant la nuit, et que l'on balaye chaque matin devant sa porte. D'ailleurs, depuis que M. de Villèle s'était séparé de moi, la politique s'était dérangée. L'ultracisme, contre lequel la sagesse du président du Conseil luttait encore, l'avait débordé. La contrariété qu'il éprouvait de la part des opinions intérieures et du mouvement des opinions extérieures le rendait irritable. De là, la presse entravée, la garde nationale de Paris cassée, etc. Devais-je laisser périr la monarchie afin d'acquérir le renom d'une modération hypocrite aux aguets? Je crus très sincèrement remplir un devoir en combattant à la tête de l'opposition, trop attentif au péril que je voyais d'un côté, pas assez frappé du danger contraire. Lorsque M. de Villèle fut renversé, on me consulta sur la nomination d'un autre ministère. Si l'on eût pris, comme je le proposais, M. Casimir Perier, le général Sébastiani et M. Royer-Collard, les choses auraient pu se soutenir. Je ne voulus point accepter le département de la marine et je le fis donner à mon ami M. Hyde de Neuville. Je refusai également deux fois l'instruction publique. Jamais je ne serais rentré au Conseil sans être le maître. J'allais à Rome, chercher parmi les ruines mon autre moi-même. Car il y a dans ma personne deux êtres distincts et qui n'ont aucune communication l'un avec l'autre. J'en ferai pourtant loyalement l'aveu, l'excès du ressentiment ne me justifie pas, selon la règle et le mot vénérable de vertu, mais ma vie entière me sert d'excuse. Officier au régiment de Navarre, j'étais revenu des forêts de l'Amérique pour me rendre auprès de la légitimité fugitive, pour combattre dans ses rangs contre mes propres lumières, le tout sans conviction, par le seul devoir du soldat. Je restai 8 ans sur le sol étranger, accablé de toutes les misères. Ce large tribut payé, je rentrai en France en 1800. Bonaparte me rechercha et me plaça. À la mort du duc d'Enghien, je me dévouai de nouveau à la mémoire des Bourbons. Mes paroles sur le tombeau de mesdames à Trieste ranimèrent la colère du dispensateur des empires. Il menaça de me faire sabrer sur les marches des Tuileries. La brochure de Bonaparte et des Bourbons valut à Louis XVIII, de son aveu même, autant que 100 000 hommes. À l'aide de la popularité dont je jouissais alors, la France anticonstitutionnelle comprit les institutions de la royauté légitime. Durant les 100 jours, la monarchie me vit auprès d'elle dans son second exil. Enfin, par la guerre d'Espagne, j'avais contribué à étouffer les conspirations, à réunir les opinions sous la même cocarde et à rendre à notre canon sa portée. On sait le reste de mes projets. Reculer nos frontières, donner dans le Nouveau Monde des couronnes nouvelles à la famille de Saint-Louis. Cette longue persévérance dans les mêmes sentiments méritait peut-être quelques égards. Sensible à l'affront, il m'était impossible de mettre aussi de côté ce que je pouvais valoir, d'oublier tout à fait que j'étais le restaurateur de la religion, l'auteur du génie du christianisme. Mon agitation croissait nécessairement encore à la pensée qu'une mesquine querelle faisait manquer à notre patrie une occasion de grandeur qu'elle ne retrouverait plus. Si l'on m'avait dit « Vos plans seront suivis, on exécutera sans vous ce que vous aviez entrepris », j'aurais tout oublié pour la France. Malheureusement, j'avais la croyance qu'on n'adopterait pas mes idées. L'événement l'a prouvé. J'étais dans l'erreur, peut-être, mais j'étais persuadé que M. le comte de Villèle ne comprenait pas la société qu'il conduisait. Je suis convaincu que les solides qualités de cet habile ministre étaient inadéquates à l'heure de son ministère. Il était venu trop tôt sous la Restauration. Les opérations de finances, les associations commerciales, le mouvement industriel, les canaux, les bateaux à vapeur, les chemins de fer, les grandes routes, une société matérielle qui n'a de passion que pour la paix, qui ne rêve que le confort de la vie, qui ne veut faire de l'avenir qu'un perpétuel aujourd'hui. Dans cet ordre de choses, M. de Villèle eût été roi. M. de Villèle a voulu un temps qui ne pouvait être à lui, et par honneur, il ne veut pas d'un temps qui lui appartient. Sous la Restauration, toutes les facultés de l'âme étaient vivantes. Tous les partis rêvaient de réalités ou de chimères. Tous, avançant ou reculant, se heurtaient en tumulte. Personne ne prétendait rester où il était. La légitimité constitutionnelle ne paraissait à aucun esprit ému le dernier mot de la République ou de la monarchie. On sentait sous ses pieds remuer dans la terre des armées ou des révolutions qui venaient s'offrir pour des destinées extraordinaires. M. de Villèle était éclairé sur ce mouvement. Il voyait croître les ailes qui, poussant à la nation, l'allaient rendre à son élément, à l'air, à l'espace, immense et légère qu'elle est. M. de Villèle voulait retenir cette nation sur le sol, l'attacher en bas, mais il n'en eut jamais la force. Je voulais, moi, occuper les Français à la gloire, les attacher en haut, essayer de les mener à la réalité par des songes. C'est ce qu'ils aiment. Il serait mieux d'être plus humble, plus prosterné, plus chrétien. Malheureusement, je suis sujet à faillir. Je n'ai point la perfection évangélique. Si un homme me donnait un soufflet, je ne tendrais pas l'autre joue. Eussé-je deviné le résultat, certes, je me serais abstenu. La majorité qui vota la phrase sur le refus de concours ne l'eût pas voté si elle eût prévu la conséquence de son vote. Personne ne désirait sérieusement une catastrophe, excepté quelques hommes à part. Il n'y a eu d'abord qu'une émeute, et la légitimité seule l'a transformée en révolution. Le moment venu, elle a manqué de l'intelligence, de la prudence, de la résolution qui la pouvait encore sauver. Après tout, c'est une monarchie tombée. Il en tombera bien d'autres. Je ne lui devais que ma fidélité. Elle l'aura à jamais. Dévoué aux premières adversités de la monarchie, je me suis consacré à ses dernières infortunes. Le malheur me trouvera toujours pour second. J'ai tout renvoyé, place, pension, honneur. Et afin de n'avoir rien à demander à personne, j'ai mis en gage mon cercueil. Juges austères et rigides, vertueux et infaillibles royalistes, qui avez mêlé un serment à vos richesses, comme vous mêlez le sel aux viandes de votre festin pour les conserver, ayez un peu d'indulgence à l'égard de mes amertumes passées. Je les expie aujourd'hui à ma manière, qui n'est pas la vôtre. Croyez-vous qu'à l'heure du soir, à cette heure où l'homme de peine se repose, il ne sente pas le poids de la vie quand ce poids lui est rejeté sur les bras? Et cependant, j'ai pu ne pas porter le fardeau. J'ai vu Philippe dans son palais du 1er au 6 août 1830, et je le raconterai en son lieu. Il n'a tenu qu'à moi d'écouter des paroles généreuses. Plus tard, si j'avais pu me repentir d'avoir bien fait, il m'était encore possible de revenir sur le premier mouvement de ma conscience. M. Benjamin Constant, homme si puissant alors, m'écrivait le 20 septembre. « J'aimerais bien mieux vous écrire sur vous que sur moi. La chose aurait plus d'importance. » Je voudrais pouvoir vous parler de la perte que vous faites essuyer à la France entière en vous retirant de ses destinées. Vous qui avez exercé sur elle une influence si noble et si salutaire. Mais il y aurait indiscrétion à traiter ainsi des questions personnelles, et je dois, en gémissant comme tous les Français, respecter vos scrupules. mes devoirs ne me semblant point encore consommés, j'ai défendu la veuve et l'orphelin, j'ai subi les procès et la prison que Bonaparte, même dans ses plus grandes colères, m'avait épargnés. Je me présente entre ma démission à la mort du duc d'Enghien et mon cri pour l'enfant dépouillé. Je me présente appuyé sur un prince fusillé et sur un prince banni. Ils soutiennent mes vieux bras entrelacés à leurs bras débiles. Royalistes, êtes-vous aussi bien accompagnés? Mais plus j'ai garrotté ma vie par les liens du dévouement et de l'honneur, plus j'ai échangé la liberté de mes actions contre l'indépendance de ma pensée. Cette pensée est rentrée dans sa nature. Maintenant, en dehors de tout, j'apprécie les gouvernements ce qu'ils valent. Peut-on croire au roi de l'avenir? Faut-il croire au peuple du présent? L'homme sage et inconsolé de ce siècle sans conviction ne rencontre un misérable repos que dans l'athéisme politique. Que les jeunes générations se bercent d'espérance. Avant de toucher au but, elles attendront de longues années. Les âges vont au nivellement général, mais ils ne hâtent point leur marche à l'appel de nos désirs. Le temps est une sorte d'éternité, appropriée aux choses mortelles. Il compte pour rien les races et leurs douleurs dans les œuvres qu'il accomplit. Il résulte, de ce qu'on vient de lire, que si l'on avait fait ce que j'avais sans cesse conseillé, que si d'étroites envies n'avaient préféré leur satisfaction à l'intérêt de la France, que si le pouvoir avait mieux apprécié les capacités relatives, que si les cabinets étrangers avaient jugé, comme Alexandre, que le salut de la nouvelle monarchie était dans des institutions libérales, que si ces cabinets n'avaient point entretenu l'autorité rétablie dans la défiance du principe de la charte, la légitimité occuperait encore le trône. Ah, ce qui est passé, on a beau retourner en arrière, se remettre à la place que l'on a quittée, on ne retrouve rien de ce qu'on y avait laissé. Homme, idées, circonstances, tout s'est évanoui. Chapitre 18. Madame de Staël. Son premier voyage en Allemagne, Madame Récamier à Paris. Revenons encore sur des temps écoulés. Une lettre publiée dans le Mercure avait frappé Madame de Staël. Je vous ai dit que Madame Biaciocchi, à la prière de Monsieur de Fontanes, avait sollicité et obtenu ma radiation de la liste des émigrés dont Madame de Staël s'était occupée. J'allais remercier Madame de Staël, et ce fut chez elle que je vis pour la première fois Madame Récamier, si haut placée par sa renommée et sa beauté. Madame Récamier avait contracté, avec cette femme illustre, une amitié qui devint de jour en jour plus intime. Cette amitié se fortifia, dit Benjamin Constant, d'un sentiment profond qu'elles éprouvaient toutes deux, l'amour filial. Madame de Staël, menacée de l'exil, tenta de s'établir à Maffliers, campagne à 10 lieues de Paris. Elle accepta la proposition que lui fit Madame Récamier, revenue d'Angleterre, de passer quelques jours à Saint-Brice, avec elle. Ensuite, elle retourna dans son premier asile. Elle rend compte de ce qui lui arriva alors, dans les 10 années d'exil. Madame de Staël, qui avait fait le projet de retourner à Copé, fut contrainte de partir pour son premier voyage d'Allemagne. Ce fut alors qu'elle m'écrivit sur la mort de Madame de Beaumont, la lettre que j'ai citée dans mon premier voyage de Rome. Madame Récamier réunissait chez elle, à Paris, tout ce qu'il y avait de plus distingué dans les parties opprimées. Bonaparte ne pouvait souffrir aucun succès, même celui d'une femme. Il disait « Depuis quand le conseil se tient-il chez Madame Récamier ?» Bernadotte, devenu depuis prince royal de Suède, était très séduisant, dit Benjamin Constant. À la première vue, mais ce qui met un obstacle à toute combinaison de plans avec lui, c'est une habitude de haranguer qui lui reste de son éducation révolutionnaire. On ne pouvait opposer à Napoléon qu'un seul nom. C'était celui de Moreau, mais Moreau avait lui-même ses propres vertus. Lorsque Moreau se trouva impliqué dans le procès de Pichegru et de Georges Cadoudal, Madame Récamier demeura persuadée qu'il n'était pas plus entré dans le complot des généraux qui eut lieu alors contre Napoléon qu'il avait voulu entrer dans les projets de Bernadotte. La nuit qui précéda la sentence rendue dans ce procès, tout Paris était sur pied. Des flots de peuple se portaient au palais de justice. Georges ne voulut point de grâce. Il répondit à ceux qui voulaient la demander « Me promettez-vous une plus belle occasion de mourir ?» Moreau, condamné à la déportation, se mit en route pour Cadix, d'où il devait passer en Amérique. Madame Moreau alla le rejoindre. Madame Récamier était auprès d'elle au moment de son départ. Elle la vit embrasser son fils dans son berceau et la vit revenir sur ses pas pour l'embrasser encore. Elle la conduisit à sa voiture et reçut son dernier adieu. Le général Moreau écrivit de Cadix cette lettre à sa généreuse amie. Chiclane, près Cadix, le 12 octobre 1804. Madame, vous apprendrez sans doute, avec quelque plaisir, des nouvelles de deux fugitifs auxquels vous avez témoigné tant d'intérêt. Après avoir essuyé des fatigues de tout genre, sur terre et sur mer, nous espérions nous reposer à Cadix, quand la fièvre jaune, qu'on peut en quelque sorte comparer aux maux que nous venions d'éprouver, est venue nous assiéger dans cette ville. Quoique les couches de mon épouse nous aient forcé d'y rester plus d'un mois pendant la maladie, nous avons été assez heureux pour nous préserver de la contagion. Un seul de nos gens en a été atteint. Enfin, nous sommes à Chiclane, très joli village, à quelques lieues de Cadix, jouissant d'une bonne santé. Et mon épouse, en pleine convalescence, après m'avoir donné une fille très bien portante. Persuadée que vous prendrez autant d'intérêt à cet événement qu'à tout ce qui nous est arrivé, elle me charge de vous en faire part et de la rappeler à votre souvenir. Je ne vous parle pas du genre de vie que nous menons. Il est excessivement ennuyeux et monotone, mais au moins nous respirons en liberté, quoique dans le pays de l'Inquisition. Je vous prie, madame, de recevoir l'assurance de mon respectueux attachement et de me croire pour toujours votre très humble et très obéissant serviteur, V.R. Moreau. Cette lettre est datée de Chiclane, lieu qui sembla promettre, avec de la gloire, un règne assuré à Monseigneur le duc d'Angoulême. Et pourtant il n'a fait que paraître sur ce bord aussi fatalement que Moreau, qu'on a cru dévoué aux Bourbons. Moreau, au fond de l'âme, était dévoué à la liberté. Lorsqu'il eut le malheur de se joindre à la coalition, il s'agissait uniquement à ses yeux de combattre le despotisme de Bonaparte. Louis XVIII disait à M. de Montmorency, qui déplorait la mort de Moreau comme une grande perte pour la couronne, « Pas si grande, Moreau était républicain ». Ce général ne repassa en Europe que pour être frappé du boulet sur lequel son nom avait été gravé par le doigt de Dieu. Moreau me rappelle un autre illustre capitaine, Masséna. Celui-ci allait à l'armée d'Italie. Il demanda à Madame Récamier un ruban blanc de sa parure. Un jour, elle reçut ce billet de la main de Masséna. Le charmant ruban donné par Madame Récamier a été porté par le général Masséna aux batailles et aux blocus de Gênes. Il n'a jamais quitté le général et lui a constamment favorisé la victoire. Les antiques mœurs percent à travers les mœurs nouvelles dont elles font la base. La galanterie du chevalier noble se retrouvait dans le soldat plébéien. Le souvenir des tournois et des croisades était caché dans ses faits d'armes. Par qui la France moderne a couronné ses vieilles victoires. Chapitre 19. Retour de Madame de Staël, Madame Récamier à Copé, le prince Auguste de Prusse. En ces temps-là, une faillite dans la fortune de M. Récamier entraîna celle de sa femme. Madame de Staël en fut bientôt instruite à Copé. Elle écrivit sur le champ à Madame Récamier une lettre toute admirable et souvent citée. Ses amis lui restèrent. « Et cette fois, a dit M. Ballanche, la fortune se retira seule. » Madame de Staël attira son amie à Copé. Le prince Auguste de Prusse, fait prisonnier à la bataille d'Eylau, se rendant en Italie, passa par Genève. Il devint éperdument amoureux de Madame Récamier. La vie intime et particulière appartenant à chaque homme continuait son cours sous la vie générale, l'ensanglantement des batailles et la transformation des empires. Le riche, à son réveil, aperçoit ses lambris dorés, le pauvre, ses solives enfumées. Pour les éclairer, il n'y a qu'un même rayon de soleil. Le prince Auguste, croyant que Madame Récamier pourrait consentir au divorce, lui proposa de l'épouser. Il reste un monument de cette passion dans le tableau de Corinne que le prince obtint de Gérard. Il en fit présent à Madame Récamier comme un immortel souvenir du sentiment qu'elle lui avait inspiré et de l'intime amitié qui unissait Corinne et Juliette. L'été se passa en fête. Le monde était bouleversé, mais il arrive que le retentissement des catastrophes publiques, en se mêlant aux joies de la jeunesse, en redouble le charme. On se livre d'autant plus vivement au plaisir qu'on se sent prêt de les perdre. Madame de Genlis a fait un roman sur cet attachement du prince Auguste. Je la trouvai un jour dans l'ardeur de la composition. Elle demeurait à l'Arsenal, au milieu de livres poudreux, dans un appartement obscur. Elle n'attendait personne. Elle était vêtue d'une robe noire, ses cheveux blancs offusquaient son visage. Elle tenait une harpe entre ses genoux et sa tête était abattue sur sa poitrine. Appendue aux cordes de l'instrument, elle promenait deux mains pâles et amaigries sur l'un et l'autre côté du réseau sonore, dont elle tirait des sons affaiblis, semblables aux voix lointaines et indéfinissables de la mort. Que chantait l'antique Sibylle ? Elle chantait Madame Récamier. Elle l'avait d'abord haïe, mais dans la suite, elle avait été vaincue par la beauté et le malheur. Madame de Staël, dans la force de sa vie, aimait Madame Récamier. Madame de Genlis, dans sa décrépitude, retrouvait pour elle les accents de la jeunesse. Je vivais alors inconnu, moi qui depuis ai perdu tout, moi dont les masies ont disparu, moi qui n'entends plus que les vagissements de quelques âmes sur l'autre rive. J'irai bientôt retrouver ces prédécesseurs qui m'appellent. Les choses qui me sont échappées me tueraient si je ne touchais à ma tombe. Mais si près de l'oubli éternel, vérités et songes sont également vains. Au bout de la vie, tout est jour perdu. Chapitre 20. Second voyage de Madame de Staël en Allemagne. Lettre de Madame de Staël à Bonaparte. Château de Chaumont. Madame de Staël partit une seconde fois pour l'Allemagne. Les lettres qu'elle écrivit à Madame Récamier sont charmantes. Il n'y a rien dans les ouvrages imprimés de Madame de Staël qui approche du naturel, de l'éloquence de ses lettres, où l'imagination prête son expression aux sentiments. La vertu de l'amitié de Madame Récamier devait être grande, puisqu'elle sut faire produire à une femme de génie ce qu'il y avait de caché et de non révélé encore dans son talent. On devine au surplus, dans l'accent triste de Madame de Staël, un déplaisir secret, dont la beauté devait être naturellement la confidente, elle qui ne pouvait jamais recevoir de pareilles blessures. Madame de Staël, rentrée en France, vint au printemps de 1810 habiter le château de Chaumont, sur les bords de la Loire, à 40 lieues de Paris, distance déterminée pour le rayon de son bannissement. Madame Récamier rejoignit Madame de Staël à Chaumont. celle-ci surveillait l'impression de son ouvrage sur l'Allemagne. Lorsqu'elle fut près de paraître, elle l'envoya à Bonaparte avec cette lettre. « Sire, je prends la liberté de présenter à Votre Majesté mon ouvrage sur l'Allemagne. Si elle daigne le lire, il me semble qu'elle y trouvera la preuve d'un esprit capable de quelque réflexion et que le temps a mûri. Sire, il y a 12 ans que je n'ai vu Votre Majesté et que je suis exilé. 12 ans de malheur modifient tous les caractères, et le destin enseigne la résignation à ceux qui souffrent. Prête à m'embarquer, je supplie Votre Majesté de m'accorder une demi-heure d'entretien. Je crois avoir des choses à lui dire qui pourront l'intéresser, et c'est à ce titre que je la supplie de m'accorder la faveur de lui parler avant mon départ. Je me permettrai une seule chose dans cette lettre. C'est l'explication des motifs qui me forcent à quitter le continent, si je n'obtiens pas de Votre Majesté la permission de vivre dans une campagne assez près de Paris, pour que mes enfants y puissent demeurer. La disgrâce de Votre Majesté jette dans les personnes qui en sont l'objet une telle défaveur en Europe, que je ne puis faire un pas sans en rencontrer les effets. Les uns craignent de se compromettre en me voyant, les autres se croient des Romains en triomphant de cette crainte. Les plus simples rapports de la société deviennent des services qu'une âme fière ne peut supporter. Parmi mes amis, il en est qui se sont associés à mon sort avec une admirable générosité. Mais j'ai vu les sentiments les plus intimes se briser contre la nécessité de vivre avec moi dans la solitude, et j'ai passé ma vie depuis 8 ans entre la crainte de ne pas obtenir des sacrifices et la douleur d'en être l'objet. Il est peut-être ridicule d'entrer ainsi dans le détail de ces impressions avec le souverain du monde. Mais ce qui vous a donné le monde, sire, c'est un souverain génie. Et en fait d'observation sur le cœur humain, Votre Majesté comprend depuis les plus vastes ressorts jusqu'aux plus délicats. Mes fils n'ont point de carrière, ma fille a 13 ans, dans peu d'années il faudra l'établir. Il y aurait de l'égoïsme à la forcer de vivre dans les insipides séjours où je suis condamné. Il faudrait donc aussi me séparer d'elle. Cette vie n'est pas tolérable, et je n'y sais aucun remède sur le continent. Quelle ville puis-je choisir où la disgrâce de Votre Majesté ne mette pas un obstacle invincible à l'établissement de mes enfants, comme à mon repos personnel? Votre Majesté ne sait peut-être pas elle-même la peur que les exilés font à la plupart des autorités de tous les pays. Et j'aurai dans ce genre des choses à lui raconter, qui dépassent sûrement ce qu'elle aurait ordonné. On a dit à Votre Majesté que je regrettais Paris à cause du musée et de Talma. C'est une agréable plaisanterie sur l'exil, c'est-à-dire sur le malheur que Cicéron et Bolingbroke ont déclaré le plus insupportable de tous. Mais quand j'aimerai les chefs-d'œuvre des arts que la France doit aux conquêtes de Votre Majesté, quand j'aimerai ces belles tragédies, images de l'héroïsme, serait-ce à vous, sire, à m'en blâmer? Le bonheur de chaque individu ne se compose-t-il pas de la nature de ses facultés? Et si le ciel m'a donné du talent, n'ai-je pas l'imagination qui rend les jouissances des arts et de l'esprit nécessaires? Tant de gens demandent à Votre Majesté des avantages réels de toute espèce. Pourquoi rougirais-je de lui demander l'amitié, la poésie, la musique, les tableaux, toute cette existence idéale, dont je puis jouir sans m'écarter de la soumission que je dois au monarque de la France? Cette lettre inconnue méritait d'être conservée. Madame de Staël ne fut pas plus écoutée que moi, lorsque je me vis obligée de m'adresser aussi à Bonaparte, pour lui demander l'avis de mon cousin Armand. Alexandre et César auraient été touchés de cette lettre d'un ton si élevé, écrite par une femme si renommée. Mais la confiance du mérite qui se juge et s'égalise à la domination suprême, cette sorte de familiarité de l'intelligence qui se place au niveau du maître de l'Europe, pour traiter avec lui de couronne à couronne, ne parurent à Bonaparte que l'arrogance de l'amour-propre. Il se croyait bravé par tout ce qui avait quelque grandeur indépendante. La bassesse lui semblait fidélité, la fierté révolte. Il ignorait que le vrai talent ne reconnaît des Napoléons que dans leur génie, qu'il a ses entrées dans les palais comme dans les temples parce qu'il est immortel. Chapitre 21. Madame Récamier et Monsieur Mathieu de Montmorency sont exilés. Madame Récamier à Châlons. Madame de Staël fut renvoyée à Copé. Madame Récamier s'empressa de nouveau de se rendre auprès d'elle. Monsieur Mathieu de Montmorency lui resta également dévoué. L'un et l'autre en furent punis. On leur infligea la peine même qu'ils étaient allés consoler. Les 40 lieues de distance de Paris furent maintenues. Madame Récamier se retira à Châlons-sur-Marne, décidée dans son choix par le voisinage de Montmirail, qu'habitaient messieurs de La Rochefoucauld, d'Oudeauville. 1000 détails de l'oppression de Bonaparte se sont perdus dans la tyrannie générale. Les persécutés redoutaient la visite de leurs amis, crainte de les compromettre. Leurs amis n'osaient les chercher, crainte de leur attirer quelque accroissement de rigueur. Le malheureux devenu un pestiféré, séquestré du genre humain, demeurait en quarantaine dans la haine du despote. Bien reçu tant qu'on ignorait votre indépendance d'opinion. Sitôt qu'elle était connue, tout se retirait. Il ne restait autour de vous que des autorités, épiant vos liaisons, vos sentiments, vos correspondances, vos démarches. Tels étaient ces temps de bonheur et de liberté. Madame de Staël écrivait à Madame Récamier qu'elle ne désirait pas la voir à Copé, dans l'appréhension du mal qu'elle pourrait lui apporter. Mais elle ne disait pas tout. Elle était mariée secrètement à M. Rocca, d'où résultait une complication d'embarras dont la police impériale profitait. Madame Récamier s'étonnait à bon droit de l'obstination que mettait Madame de Staël à lui interdire l'entrée de Copé. Blessée de la résistance de son amie, pour laquelle elle s'était déjà sacrifiée, elle n'en persistait pas moins dans sa résolution de partager les dangers de Copé. Une année entière s'écoula dans cette anxiété. Les lettres de Madame de Staël révèlent les souffrances de cette époque, où les talents étaient menacés à chaque instant d'être jetés dans un cachot, où l'on aspirait à la fuite comme à la délivrance. Quand la liberté a disparu, il reste un pays. Mais il n'y a plus de patrie.